Alors, vous êtes toujours sur les ondes de CKUT 90.3. Il est maintenant 5h48 et nous sommes en compagnie de Simon pour le retour de la chronique des apatrides anonymes.
Salut Karine, salut tout le monde. Peut-être pour compléter sur Yvonne Hernandez, il y a un rassemblement d'appui demain devant la Cour fédérale au 30 rue McGill au métro Square Victoria. Donc, tout le monde est invité à démontrer sa solidarité. Chronique des apatrides, le grand retour après... on a pris des vacances, des fêtes d'environ 2 mois. Donc, on s'est bien reposé. Et avec le retour des apatrides, on va encore entendre parler de nos ministres de l'immigration.
Ah, c'est toujours agréable.
Pas moyen de prendre congé. Donc, Chris Alexander, ministre fédéral de l'immigration. Son prédécesseur, Jason Kenney, qui revient nous hanter encore une fois. J'aimerais commencer avec notre ministre provincial de l'immigration, Diane de Courcy. Donc, fait unique au Canada, au Québec, on a un ministre de l'immigration et des communautés culturelles et de la langue française, mais souvent dans l'ombre un peu des politiques fédérales qui, elles, ont plus d'impact sur les politiques d'immigration. Donc, là, rassurez-vous, je vous parlerai pas de la charte. Par contre, elle a publié un texte jeudi passé qui s'appelle « Charte et immigration, les faits sont têtus ». Donc, qu'est-ce qu'elle dit, en gros, là-dedans? Elle décrit un peu le fait que beaucoup de gens disent que la charte va avoir un effet repoussoir pour les demandes d'immigration et même faire fuir des personnes migrantes qui sont déjà établies au Québec. Elle dit non, c'est pas vrai, et elle y va de statistiques. Elle compare à l'année 2013 à l'année 2012. Elle dit qu'il y a eu une augmentation fulgurante des demandes de sélection pour le Québec, malgré qu'on parlait déjà de la charte. Et elle s'en réjouit. Donc, je vais la citer. « Ce sont de bonnes nouvelles. Plus nous recevons de demandes, plus nous pouvons être exigeants dans l'attribution de points pour sélectionner les personnes qui pourront le mieux intégrer le Québec. » Oupelaïche. C'est quand même à rappeler que c'est cette même Diane de Courcy, ministre de l'Immigration du Québec, qui a abaissé les quotas d'immigration pour l'horizon 2014-2015, donc pour faire passer d'environ 55 000 annuellement à 49 000 pour 2015, donc qui prend une diminution d'environ 10%, une diminution très importante du nombre de personnes qu'on va sélectionner ou recevoir au Québec. Si on met les deux éléments en relation, donc elle se réjouit d'une augmentation des demandes, mais veut baisser les quotas. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Elle est contente de quoi? Qu'on doive refuser davantage de monde? Que le fédéral va devoir expulser davantage de gens? Donc, c'est un peu cynique, sinistre. Je sais pas comment qualifier ça, mais je sais pas si même elle se rend compte de ce qu'elle dit. Et si on regarde son CV, qu'elle était autrefois présidente ou je sais pas c'est quoi le titre, commissaire à la CSDM, la Commission scolaire de Montréal, la plus grande commission scolaire au Québec, et jamais elle a levé le petit doigt dans le dossier des enfants dont les parents sont sans statut. Alors qu'ailleurs, c'est en Ontario, dans des États américains, ça s'est fait. Il y a des fonctionnaires, il y a des cadres, il y a des gens qui sont levés pour faire avancer ces dossiers-là. Donc, je pense pas qu'on va parler souvent de Mme Diane de Courcy, mais je tenais quand même à faire un petit portrait aujourd'hui, qui n'est pas très reluisant. Notre principal ministre de l'immigration au Canada, c'est Chris Alexander au fédéral. Des déclarations étonnantes dans les derniers jours, donc qui prétend que grâce à la réforme de son prédécesseur Jason Kenney, réforme du système d'immigration au complet, mais particulièrement grâce à la réforme sur les demandes d'asile, il a fait économiser aux contribuables, ça c'est la formule conservatrice, là. On fait économiser aux contribuables canadiens 600 millions de dollars. C'est un chiffre quand même important, là. C'est un gros montant qui n'a pas eu de communiqué officiel, il n'y a pas eu de documents, il n'y a pas de ventilation des montants, donc c'est un peu déclaré comme ça à l'emporte-pièce, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir comment on pouvait affirmer une telle chose. Il met ça principalement sur le compte d'une diminution de 87% par rapport aux années précédentes des demandes d'asile au Canada.
OK, donc il y a une diminution des demandes au Canada puis une augmentation au Québec?
Des demandes d'asile, c'est quand même un domaine spécifique, demande de statut de réfugié. Au Québec, on n'a pas de demande de statut de réfugié, c'est entièrement fédéral comme champ de compétence. Okay. Au Québec, on a des demandes de résidence permanente, de sélection du Québec pour éventuellement, c'est un peu compliqué tout ça, là, parce qu'on a deux gouvernements qui ont droit de regard sur les dossiers au Québec. Là. Uh-huh. Mais la demande de statut de réfugié concerne le fédéral et il y aurait eu diminution de 87% par rapport aux années précédentes, particulièrement à cause de l'élargissement de la liste des pays sûrs, des pays que le Canada juge sécuritaires. Donc, à partir de ces pays-là, ce n'est plus possible de faire une demande de statut de réfugiés. On pense à des pays d'Europe de l'Est comme Roumanie, Hongrie, pas Bulgarie, mais enfin des pays où les Roms, entre autres, sont beaucoup persécutés. On pense au Mexique, qui est un pays sûr. Petit exercice que je propose aux gens qui nous écoutent, allez comparer la liste des pays sûrs qu'on trouve dans le site du gouvernement fédéral et allez la comparer avec le site du ministère des Affaires étrangères qui donne des conseils aux touristes canadiens, puis allez voir les disparités, même les contradictions entre le niveau de sécurité entre différents pays dont on parle. Donc, en tout cas, on aurait économisé 600 millions de dollars. Je vais essayer de comprendre avec vous où et comment on aurait pu économiser de l'argent. Donc, là où on a pu économiser, la liste des pays sûrs qui est plus large, donc forcément moins de demandes, d'accord. L'établissement de visa, entre autres au Mexique, qui fait en sorte que beaucoup moins de personnes d'origine mexicaine peuvent même se rendre au Canada, n'ont pas les autorisations. Il y a toutes sortes de structures de restructuration administrative, donc des bureaux qu'on ferme, des bureaux d'immigration qui ont fusionné. Ça, oui, à court terme, ça fait économiser. À long terme, non, parce que les dossiers doivent être traités de toute façon. Il n'y a plus de possibilité d'appel pour les décisions rendues contre les personnes qui demandaient le statut de réfugié. Donc, la décision est finale. Avant, on pouvait faire appel de cette décision-là. Ce n'est plus le cas. Donc, forcément...
Ça, c'est
dans les réformes, c'est dans le bill omnibus, le bill mammouth qu'on appelle. Ah. Il y avait beaucoup d'éléments liés à l'immigration là-dedans qui nous ont pris du temps à, qui ont pris du temps à émerger parce que c'était long à analyser. Même beaucoup d'avocats se perdaient dans ce genre de dédale administratif-là. Mais c'est des choses qui sont ressorties de ce bill omnibus-là. Le gouvernement fédéral avait coupé dans la couverture des soins de santé pour certaines catégories d'individus aussi, ce qui fait forcément économiser. C'est triste, mais c'est comme ça. Là, par contre, où on a pu dépenser plus, donc là, moi, je doute de ce montant-là, de 600 millions de dollars. Donc, je parlais de visa. Oui, ça peut faire économiser parce qu'il y a moins de demandes de statut de réfugié. Par contre, tout le système d'émission des visas, toute l'administration, la paperasse qui est reliée à ça, ça coûte très cher quand même. Ça, c'est le ministère de l'Immigration qui s'occupe de ça. On a embauché plus de personnel pour essayer de régler les questions de délai, parce que des fois, des demandes, des traitements allaient jusqu'à 2 ou 3 ans. Là, c'était assez hallucinant. Le temps de se refaire une vie complète ici puis de se faire refuser par la suite. Donc, le payroll du ministère est plus important. On avait parlé de programmes de biométrie, c'est-à-dire des gens qui faisaient des demandes de l'extérieur du Canada. On voulait qu'ils nous envoient un dossier avec plein de données biométriques personnelles, donc des iris, des empreintes digitales, des dossiers d'ADN. Je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est des technologies qui coûtent une fortune. Si on a vraiment appliqué ces programmes-là, ça a dû coûter très cher aussi. Donc, et beaucoup plus de surveillance au niveau des ports, des aéroports, la frontière avec les États-Unis et même à l'intérieur des villes, dans les centres-villes, dans les communautés. Ça coûte très cher. Par contre, ça, c'est pas des dépenses qui sont assumées par le ministère de l'Immigration. Ça relève de la sécurité publique, de l'Agence des services frontaliers, de la GRC, du Service canadien de renseignement de sécurité. Donc, peut-être, oui, éventuellement, on a économisé des millions en bloquant davantage nos frontières. Mais je pense qu'on paye beaucoup, beaucoup plus, même en termes de milliards, probablement, au niveau de la sécurité, au niveau de la surveillance. Donc, ce cher Chris Alexander, il me reste quelques minutes. Toujours une petite déclaration. C'était lors du même point de presse, là, durant le temps des fêtes. Il a blâmé l'Ontario. Qui continue d'offrir une couverture minimale de soins de santé suite au retrait du fédéral, suite à l'abolition du programme fédéral de soins intérimaires en 2012. Je vais citer le monsieur Alexander qui est « Cela fait du Canada, et plus spécifiquement de l'Ontario, un aimant pour les faux demandeurs d'asile. »
Faux demandeurs d'asile, OK.
Ouais, ben on parle souvent de fraudeurs.
Soigner au Canada.
Oui, l'argument du tourisme médical est souvent envisagé. Un argument plus populiste encore, plus démagogique que sorti. Je cite M. Alexander, « Les demandeurs vont passer devant les personnes âgées dans les hôpitaux. »
Ah, wow!
Oui, il a vraiment dit ça.
OK.
Donc, en tout cas, le gouvernement ontarien semble tenir bon et entend contester. Il même veut refiler la facture au gouvernement fédéral parce que ça coûte quand même des sous, tout ça.
C'est juste en Ontario qu'ils font ça en ce moment.
Bien, d'une province à l'autre, ça a été variable, la réponse. Au Québec, il y a eu un délai de carence. Il y a eu une période où on a continué de couvrir. Le ministre Régent Hébert, actuellement, il se le dit en réflexion. Donc, on va lui citer... une excellente réflexion.
c'est ça.
Jason Kenney, très rapidement, il n'est plus ministre de l'immigration, il est ministre du Travail et du Développement social. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire en immigration? Histoire confuse. Là, je vais essayer de résumer ça rapidement. Le 1er janvier, donc le jour de l'an, un communiqué du ministère du Travail à propos du programme programme de travailleurs étrangers temporaires qui permet à des corporations, des entreprises d'embaucher du personnel saisonnier. Il y avait une disposition qui, autrefois, si une entreprise était reconnue criminellement responsable, entre autres de traite de personnes, agression sexuelle contre un employé, avoir provoqué la mort d'un ou une employée ou une blessure grave, cette corporation-là n'avait plus le droit de profiter de ce programme de travailleurs temporaires. Et à partir du 1er janvier, selon le communiqué qui a été émis, l'entreprise devra faire face à la justice éventuellement, mais peut continuer de profiter de ce programme-là. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des pressions de pétrolières, de minières directement auprès du bureau du premier ministre ou du ministre Kenney? On ne le sait pas. Tout le monde est perplexe, là. Même le patronat se dit perplexe. Là.
OK. Ça, c'est un programme qui... Ben moi, je connais les travailleurs, surtout les travailleurs agricoles, mais comme tu dis, c'est aussi les travailleurs dans les minières, le pétrole, la construction
c'est
aussi,
j'imagine. Toute entreprise, PME, agricole, les grandes corporations, les minières, toute entreprise qui veut embaucher du personnel sur une base temporaire doit passer par ce programme-là.
Okay.
Donc, autrefois, reconnu criminellement responsable de sévices ou même de mort, on retire le droit à l'entreprise de profiter de ce programme-là, mais maintenant, non.
Bon.
Donc, sur cette bonne nouvelle un peu étrange, est-ce que j'ai le temps de vous lire une citation du ministre?
Ben, 20 secondes.
20 secondes. Les employeurs sont tenus de faire des efforts raisonnables pour offrir un milieu de travail exempt de toute forme de violence, dont la violence physique, sexuelle ou psychologique. Fait que finalement, on demande aux entreprises de s'auto-réguler. On leur fait confiance. Donc, tough on crime pour vous et moi, mais pas pour les entreprises. Donc, je vous laisse là-dessus. Les apatrides vont venir dans 2 semaines. On va essayer de vous parler plus international.
Puis, vous avez un site Internet?
apatridesanonymes.info.
D'accord. Alors, la prochaine chronique, donc, dans 2 semaines. Il est 6 heures. Je vous laisse avec Queercore dans un instant dans vos oreilles.